J'aimerais vous parler de Jésus, le bon berger. On va prendre Jean, chapitre 10. L'évangile de Jean, au chapitre 10. J'aime bien quand Jésus parlait, quand il parle, que c'est simple, c'est clair, c'est tellement frais, c'est tellement vrai. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. J'espère que vous allez comprendre ce matin. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît, comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Verset 26. Jésus dit, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Amen. Voilà. On ne peut pas dire que c'est une parabole, c'est plusieurs paraboles, parce qu'il y a plusieurs images que Jésus emploie. Et on aurait tort de dire que c'est une seule parabole. Je vous dis ça parce que sinon vous vous perdez vite. Parce qu'au début Jésus dit « Je suis le bon berger » et puis au verset 7 après il dit « Je suis la porte ». Ce n'est pas la même image, ce n'est pas la même parabole. Vous ne pouvez pas dire qu'à la fois il est le berger et la porte. On est d'accord? C'est deux images différentes. Jésus dit au début le bon berger, il entre par la porte. Il est entré par la porte. Celui qui entre, qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger, est le vrai berger. Jésus se présente comme quelqu'un qui n'est pas un voleur et un brigand. Il dit qu'il est celui qui est venu légitimement comme le vrai Messie envoyé par Dieu à Israël et au monde. Il dit par là que quand il est rentré par la porte, il veut dire par là qu'il est rentré... validé par tout l'Ancien Testament, par toutes les prophéties que Dieu avait données pour annoncer un Messie à Israël. Et lorsque le Seigneur parle de cela, il se compare, si vous voulez, le chapitre 10, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'il suit le chapitre 9. Et juste avant le chapitre 9, on voit un aveugle né, guéri par Jésus, qui se retrouve face à des hommes religieux de son temps, aux pharisiens qui le maltraitent, qui le maltraite moralement et qui va y essayer de le faire abandonner Jésus. Et cet homme qui est maltraité par ces pharisiens est comme soigné par Jésus et récupéré. Et Jésus dit, fait cette allusion nette et claire, qu'il dit ces hommes religieux, ces hommes qui s'étaient arrogés un certain pouvoir d'une façon que Dieu ne leur avait pas donné, c'était eux les voleurs et les brigands. Et que la brebis, c'était cet homme, cet aveugle né. Et Jésus dit, mais moi, je suis rentré par la porte. Lisez la Bible, lisez l'Ancien Testament, lisez toutes les prophéties, lisez Ésaïe 53, ce que notre frère a lu tout à l'heure. Lisez ce que Dieu annonce sur la venue de Jésus, et vous verrez que Jésus est vraiment celui qui a accompli la volonté du Père, a accompli toutes les prophéties, et il est vraiment envoyé par le Père. Et l'apôtre Paul disait, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Et quand Jésus parle aux disciples d'Emmaüs, il leur dit, c'est écrit, « En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et il leur dit, « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et les psaumes. » Voilà. Si vous lisez la Bible, si vous lisez l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament parle de Jésus. Tout l'Ancien Testament va vers Jésus. Et si vous voulez comprendre l'Ancien Testament, passez par Jésus, parce qu'il est la clé et l'ouverture pour comprendre l'Ancien Testament. En cela, donc, Jésus est entré par la porte. Il a accompli les prophéties que Dieu avait annoncées. Et Jésus dit aussi, au verset 3, « Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. » Il les appelle par leur nom. C'est un berger un peu à l'ancienne, vous savez. Maintenant, ce n'est pas les troupeaux modernes. Enfin, moi, je n'ai pas trop de notion d'élevage, mais je sais que les troupeaux modernes, bon, les bergers de maintenant, ils s'amusent pas à appeler chaque brebis par leur nom. Mais à l'époque, en Palestine, c'est ce qui se passait. On travaillait à l'ancienne, et le berger appelait, connaissait chaque brebis, leur donnait un nom, et chaque brebis était connue de lui. Et ce que je disais au début, c'est vrai. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Tu es un trésor pour Dieu. Peut-être qu'on t'a dit que dans ta vie que tu ne valais rien. Ça vous est déjà peut-être arrivé. Vous savez, malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas très intelligents. Et ils se permettent de dire à certaines personnes qu'elles ne valent rien. Moi, quand j'étais jeune, j'avais une enseignante. C'est vrai que j'avais un gros poil dans la main. Et une enseignante, elle m'a parlé d'une façon vraiment pas sympa, quoi. Elle m'a dévalorisé. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Et on rigole, mais quand on vous dit que vous valez rien, quand vos parents, votre père, votre mère vous dit « toi, tu n'y arriveras jamais dans la vie », ça marque, ça marque. Mais aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Tu es un trésor. Tu es un trésor aux yeux de Dieu. Et la Bible dit que ce berger qui veut être ton berger, si tu ne le connais pas, il t'appelle personnellement par ton nom. Par ton nom. Dieu connaît ton nom. Mais Dieu connaît ton nom, ça veut dire que Dieu te connaît personnellement. Il connaît ton passé. Il connaît ton présent. Il connaît ton avenir. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il sait ce que tu vaux. Il sait ce que tu ressens. Et c'est formidable de savoir que l'appel de Dieu dans notre vie est tellement personnel. C'est tellement bien de savoir que Dieu me connaît et qui me parle à moi en fonction de moi. Comment se fait-il qu'on soit si différent et qu'on soit venu à Jésus? Parce que le Seigneur a su nous attirer individuellement. Et c'est bien de savoir que parfois Dieu il a besoin de parler fort à certaines personnes, très très fort. Parfois il a besoin de les secouer fort par des circonstances violentes, des épreuves difficiles. Et parfois le Seigneur parle tout doucement à certaines personnes avec douceur, parce que ça correspond à leur personnalité. Cet appel est personnel. Dieu ne fait pas un appel collectif. Dieu ne fait pas un appel de masse. Ce n'est pas un recrutement de masse. Dieu s'intéresse à chacun de nous personnellement. Il est notre berger et il nous connaît individuellement. Il connaît tes soucis, il connaît tes problèmes, il connaît ce que tu as en l'intérieur de toi. Et il dit, les brebis entendent sa voix. Et même au verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est qui ces autres brebis? Ben, c'est nous, les non-juifs, pour la plupart d'entre nous ici. Parce que Jésus parlait aux juifs, il disait c'est cette brebis, mais il parlait aussi d'autres brebis, c'est-à-dire nous les païens, ceux qui sont venus de l'extérieur. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là aussi, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, etc. Et c'est vrai que Dieu te parle, il te parle par ton nom, et même si tu ne connais pas la Bible, même si la Bible n'est pas ton système de référence. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, Jésus est venu pour accomplir les prophéties de la Bible. Mais si tu ne crois pas à la Bible, tu t'en fiches de ce que j'ai dit. Ah oui. Si je te dis que Jésus est venu accomplir l'Ancien Testament, mais que tu ne crois pas à l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça t'apporte? Mais j'ai envie de te dire, mais si tu as l'amour de la vérité, si tu cherches la vérité, si tu aimes la vérité, tu ne peux que trouver la vérité. Parce que Jésus parle à ses brebis qui lui appartiennent. Et quelles sont les brebis qui lui appartiennent? Ce sont les brebis qui cherchent la vérité, qui ont l'amour de la vérité. Il y avait ces hommes religieux, il leur a dit, mais vous, vous n'êtes pas de mes brebis, je l'ai lu tout à l'heure. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, à ces hommes pharisiens. Pourquoi il leur a dit ça? Parce qu'il ne voulait pas qu'ils se sauvaient? Parce que Jésus n'aimait pas les pharisiens? Non, Jésus aime tout, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. Et parviennent à la vérité. Mais si j'aime le mensonge, si je n'aime pas la vérité, si je rejette volontairement la vérité, comme ces hommes religieux, pas tous, mais certains, qui disaient, ben non, Jésus, non, lui il fait des miracles, mais c'est parce qu'il est possédé, c'est parce qu'il a un démon. Si ces gens-là, ils voulaient pas de la vérité, ils avaient peur. Mais si tu cherches la vérité, même si tu ne connais rien de Dieu, même si tu ne connais rien de la Bible, même si la Bible ne te parle pas, c'est certain que Dieu te parle et tu fais partie de ses brebis. Tu ne le sais pas encore, mais tu fais partie de ses brebis. Et la voix du berger se fait entendre à ta voix, à ton cœur, à ton oreille, et il te cherche, il veut t'emmener à lui. Même si tu t'es trompé dans des fausses religions, même si tu t'es trompé dans des sectes, même si tu t'es trompé et même si tu t'es égaré dans des choses qui t'ont déçu, il est certain que si tu as l'amour de la vérité, alors tu trouveras et tu parviendras à la connaissance de la vérité. Il y a un homme qui a dit à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Qui c'est qui a dit ça? Pilate. Pilate, elle a dit ça. Qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est vrai que c'est pas très à la mode de dire ça. Parce que les gens n'aiment pas qu'on dise qu'il y a une vérité. Maintenant, on est dans un monde où il y a beaucoup de vérités. Tout est vrai, tout est faux. Il y a plein de chemins. Et à partir du moment où la Bible dit, mais non, il y a un seul chemin, ça choque. Mais je crois que si tu es sincère, tu trouveras la vérité. Jésus a dit, dans cette autre parabole, il a dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ce que je viens de dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est formidable de savoir qu'il y a une porte. Déjà, c'est bien qu'il y ait une porte. Oui, absolument, c'est important de savoir qu'il y a une porte. Et Jésus est la porte qui nous a été ouverte vers le ciel. Et de savoir qu'il peut nous sauver. Pourquoi nous sauver? Parce que nous sommes perdus loin de lui. Et c'est bien de savoir que cette porte, elle est là, et qu'il n'y a pas de condition, comme je le disais. Ce qui est important, ce n'est pas l'aspect, la condition de celui qui rentre, mais c'est juste de trouver la porte. Si quelqu'un entre, il sera sauvé. Il n'a pas dit si tel type de personne, il a dit simplement si quelqu'un entre, entre. C'est simple une porte, il suffit d'ouvrir et d'entrer dans son ciel de gloire. Versets 11 et 12, il dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Au verset 15, il dit « Je donne ma vie pour mes brebis ». Au verset 17, il dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre ». Afin de la reprendre parce qu'après, il a été ressuscité, bien sûr. Et il dit, verset 18, « Personne n'ôte ma vie, mais je la donne de moi-même », etc. Jésus a dit ça, cette parabole du bon berger a été dite par Jésus à peu près 4 à 5 mois avant la crucifixion. On est à peu près 4 à 5 mois de la crucifixion. Et c'est vrai qu'il parle, il annonce sa future mort, son futur sacrifice pour nous sauver, pour nous donner la vie. Jésus a versé son sang pour toi, pour moi. Il aurait pu échapper à la croix, mais il s'est donné librement pour notre salut. Savoir quand même qu'il a dit « j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre », c'est important de savoir ça. Ça veut dire que Jésus, jusqu'à la fin, aurait pu décider de ne pas donner sa vie. Il avait la permission de son Père. Et souvenez-vous quand même qu'à un moment, il a dit « si j'avais voulu, j'aurais pu appeler 12 légions d'anges à mon secours pour me sortir de là ». Ça veut dire que quand il était sur la croix, quand les anges lui disaient, mais les anges, pff, pas les anges, quand les hommes lui disaient, si tu es le Fils de Dieu, descends ta croix, sauve-toi toi-même. Il aurait pu. Quand on voit la puissance de deux anges qui sont allés à Sodome et Gomorre, imaginez ce que ça fait, 12 légions d'anges. Alors une légion, je crois que c'est 6 000. Je crois. Mais je ne suis pas sûr, mais je crois. Enfin, peu importe. Vous imaginez 12 légions d'anges. Mais Jésus a décidé librement de rester sur cette croix pour être notre sacrifice, pour nous sauver. Et après il dit, il les fait sortir ces brebis. Les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Dehors. Et c'est vrai que quand on vient à Jésus, il nous appelle à sortir. L'apôtre Pierre, lorsqu'il a prêché à la Pentecôte, il disait « Sortez, sortez de cette génération perverse et corrompue. Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et Dieu, lorsqu'il parle à Abraham, il lui dit « Sors de ton pays. » Et j'aimerais vous rappeler simplement, si vous ne le savez pas, vous le dire, que lorsque vous venez à Jésus, il y a une rupture, il y a un appel. Et Dieu nous appelle à sortir de notre ancienne vie. Il y a un renoncement, il y a un abandon, il y a un sacrifice, il y a un pas vers l'inconnu, il y a une rupture, il y a un avant, il y a un après. Il y a un avant, il y a un après. Et il est bon même pour nous, chrétiens, de s'en souvenir. Il y a un avant, il y a un après. Nous sommes sortis. Et il les fait sortir. Et il marche devant elles. Il paraît que les bergers de maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, les bergers, il y a les brebis qui vont devant et ils sont derrière. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Le berger marchait devant les brebis. Et c'est bien de savoir quand même qu'on a un seigneur, un berger, qui ne dit pas simplement « Allez-y, allez-y, allez-y. « Allez-y, mes petits loups. Allez vous battre. Je suis derrière, je pense à vous. Allez-y, sacrifiez-vous. Des sacrifices, du sang et des larmes, je vous demande, pendant que je vis tranquille. » Et Jésus n'est pas, ne me fait pas penser à certains leaders, à certains hommes de politique qu'on pourrait connaître de droit. Je fais pas de politique. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus, il a montré l'exemple. Il s'est sacrifié avant de nous demander de nous sacrifier. Il a donné sa vie avant de nous demander de donner notre vie. Il s'est abaissé pour nous relever. Il est devenu pauvre pour que nous soyons justes, pour que nous soyons riches. Et il s'engage à marcher devant nous, à nous montrer le chemin, à prendre les coups pour nous. Il dit pas, ben voilà, maintenant, allez, t'es chrétien, allez, vas-y, débrouille-toi. Non, non. Il te montre le chemin, il est là devant toi, il voit les pièges et il marche devant toi. Et c'est un vrai éclaireur, vous savez comme à l'époque, quand il y avait des éclaireurs. Jésus dit, les brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. J'aime bien ce verset, tu vois, j'ai des versets préférés. Et verset 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix. » C'est important, ça. Entendre la voix. C'est pas facile. Et au verset 5, il dit aussi « Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Et il parle, verset 8, il dit que les brebis n'ont pas écouté les voleurs et les brigands. Vous voyez ? Donc, les brebis, bon, elles ont l'habitude, elles sont familières avec la voix du berger. Et ça, c'est important pour nous chrétiens. Apprendre à connaître la voix du bon berger, c'est pas facile. Je pense que pour connaître la voix du bon berger, cette brebis qui ne répond, qui n'obéit qu'à la voix du berger. Si un autre parle, elle bouge pas. Elle bouge pas. Vous savez qu'il y a beaucoup de voix dans le monde. Il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux bergers. Et on va vers les temps de la fin, on y est. Il y en aura de plus en plus. Il y a beaucoup de séducteurs. Il y a beaucoup de gens qui prendront la Bible et qui diront « c'est la vérité, suivez-moi ». Et notre sagesse et notre intelligence ne suffiront pas pour faire la différence. Il faut absolument, nous chrétiens, que nous apprenions à connaître toujours plus la voix du bon berger. C'est important, ça. C'est important pour ne pas nous laisser séduire, parce que l'intelligence ne suffira pas. La connaissance biblique ne suffira pas. Il y a des pièges spirituels Je me suis toujours demandé pourquoi certaines personnes que j'ai vues, que je connais, se sont laissées piéger par certaines choses. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Je crois qu'à la base, il y a un éloignement par rapport à Dieu. Il n'y a que ça. Et pour connaître la voix du bon berger, ben, faut l'écouter. Il faut écouter. Et puis, il faut l'écouter souvent. Vous êtes d'accord? Il faut le fréquenter régulièrement, le berger. Il faut plutôt... Il faut le fréquenter assidûment. Il faut le suivre de près. Parce que figurez-vous que les bergers, elles n'ont pas de téléphone portable, les brebis. Et elles disent pas, elles prennent pas l'iPhone et puis elles téléphonent au berger. Non, si elles veulent entendre la voix du berger, valait mieux qu'elles soient pas loin, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il faut suivre de près. Et puis aussi, si on veut que le berger nous parle, ben quand il parle, il vaut mieux lui obéir. C'est recommandé. Parce qu'il peut encore parler quand on ne lui obéit pas, mais à un moment, il peut se fatiguer quand même de nous parler pour rien dire. Et enfin, il faut apprendre à ne pas écouter les étrangers, les voleurs et les brigands, et à savoir faire la différence entre les uns et les autres. Ouais. Et le verset 9 dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. » C'est bien ce verset. « Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » Il trouvera des pâturages. Il entrera, il sortira, il est libre. Avec Jésus, on est libre. Hein ? Quand on est devenu chrétien, on n'est pas rentré en prison. Vous êtes d'accord ? On est sorti de prison. Vous êtes en prison, j'espère que... Rassurez-moi, on ne vous garde pas de force ici. Non, ça va. On est libre. Il entrera, il sortira, il trouvera une vie abondante. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et si tu n'es pas satisfait, c'est bon signe et c'est mauvais signe. Si je suis toujours satisfait, c'est un mauvais signe, parce que ça veut dire que je suis comme l'Odyssée, l'église de l'Odyssée, vous savez, qui dit « mais tout va bien pour moi, je suis satisfait, j'ai tout, tout est bon, tout est merveilleux ». Ça, c'est l'autosatisfaction, c'est la personne qui ne veut plus progresser. Pas bon, ça. Mais si je ne suis jamais satisfait, c'est-à-dire je dis « oh, mais non, la vie chrétienne, c'est triste. Oh, c'est tellement mieux dans le monde, c'est tellement mieux en boîte. C'est tellement mieux là-bas, mes copains, mes copines, ils s'amusent tellement et l'église, c'est tellement triste. » C'est pas bon, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'à un moment, on a pris un chemin de travers et les pâturages, ils ont pris une claque et ils sont un peu secs. Il y a une période de sécheresse qui s'est installée grave là et il n'y a pas de pâturage terrible, quoi. Donc un problème. Le Seigneur, il a dit, je suis venu afin que la vie et les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Même si on traverse le désert, on peut traverser le désert. Mais les brebis ont la vie en abondance avec le Seigneur. Et c'est nous qui devons faire envie aux autres. Si je commence à avoir envie de leur vie, c'est qu'il y a un problème. C'est que la brebis, elle a besoin de se faire soigner. Par le bon berger. Amen. Eh oui, verset 15. « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. » Alors, je vais verset 14. « Je suis le bon berger. » Je pense que ma prédication, vous en souviendrez. J'ai dit tellement de fois, je suis le bon berger, pas moi, mais le Seigneur. Je suis le bon berger, Jésus a dit, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Ça, c'est un verset qui me parle beaucoup. Je connais mes brebis, ça c'est bien. Il n'y a pas de doute, le Seigneur nous connaît, tous, je l'ai déjà dit. Mais est-ce que je connais le Seigneur? Elles me connaissent. Alors, on le connaît, le Seigneur. Mais il dit, et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je suis sûr qu'on a tous des progrès à faire. Vous savez que Jésus a dit à un moment à un homme qui s'appelait Philippe, un de ses disciples, il lui a dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Et tu ne m'as pas connu? C'est triste, hein, on sent une pointe de déception dans les paroles de Jésus. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que tu me connais, mon frère, ma soeur. Il y a si longtemps que tu es avec Jésus et tu ne m'as pas connu. On a besoin, frères et sœurs, d'apprendre à fréquenter le Seigneur, à le connaître dans son intimité, apprendre à le connaître. Et on est tous des enfants. Tous des enfants, il n'y en a pas de mieux que l'autre, on est tous des enfants dans ce domaine. On a besoin d'apprendre à connaître le berger, c'est quand même notre ambition suprême, connaître notre Seigneur. C'est notre but, c'est notre ambition, c'est notre motivation. Oui, oui. Et nous sommes aussi, et je termine par là, au verset 12, protégés par le bon berger. Mais le mercenaire qui n'est pas le mercenaire et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Parce qu'il est, mercenaire, il est un salarié, vous savez, il est pas motivé au résultat, on va dire, il a juste un salaire, quoi. C'est pas le propriétaire. Mais le berger, c'est pas pareil. Le berger, c'est pas pareil. Il est intéressé par chacune de ses brebis. Et je me suis dit, mais le Seigneur, c'est vraiment le contraire de ce mercenaire. Le mercenaire s'enfuit, il ne se met pas en peine des brebis, il ne se met point en peine des brebis. Il abandonne les brebis. Et moi, je me suis dit, Jésus, quand il voit venir le loup, il n'abandonne pas les brebis. Si on prend l'inverse du mercenaire, il n'abandonne pas les brebis. Il ne prend pas la fuite. Il nous défend. Et si le mercenaire ne se met pas en peine des brebis, nous, Jésus, le bon berger, se met en peine de nous. Et oui, et quand nous sommes en danger, quand nous sommes menacés, parce qu'il y en a des ennemis, il y en a des problèmes, c'est bien de savoir que Jésus n'abandonne jamais la bataille. Il ne lâche rien. Il ne lâche rien. Aucun ennemi, aucun danger ne peut être plus fort que la sollicitude, que l'amour fidèle de Jésus. Jésus ne lâchera rien. Mets-toi ça dans la tête, que quel que soit le problème que tu traverses, Jésus ne prend jamais la fuite. Jésus ne prend jamais la fuite. Jésus n'est pas un lâche. Jésus est notre héros. Il est courageux et il n'a peur de personne. Rien ne lui fait peur. Et il ne prend pas la fuite, il te défend, il se met en peine de toi. Il se met en peine de toi. Et la sollicitude, l'amour de Jésus est illimité parce que le meilleur des amis, à un moment, il fatigue. Il fatigue. Il va prendre des nouvelles. Puis à un moment, au bout d'un an, ça va pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? La plus grande compassion humaine a ses limites. Mais qui est comme Jésus ? Qui se met en peine de nous sans se lasser, avec une compassion illimitée, avec un amour illimité, insondable, un amour qui nous comprend parfaitement, un amour immense, éternel, un amour d'une telle amplitude, d'une telle profondeur, d'une telle compassion qui fait que le Seigneur est capable de pleurer avec nous et de nous soulager et de nous aider et de se mettre en peine avec nous. Alors, n'abandonne pas. Et il dit, je leur donne la vie éternelle. Tu sais que tu as Jésus et que tu as la vie éternelle ? Ah oui, c'est vrai que tu as la vie éternelle. Et si tu as Jésus, il dit, elles ne périront jamais. Rappelons-nous que nous avons la vie éternelle. Ça veut dire qu'on connaîtra la mort sur la terre, sauf si le Seigneur revient, mais que nous serons après éternellement vivants avec lui. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Personne ne peut t'arracher à l'amour de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas écrit quelque part quand même que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ? Ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la domination, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et pour bien appuyer, il dit, et personne ne les ravira de ma main, mon Père qui me les a donnés, plus grands que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Tu peux te retirer volontairement de la main de Jésus et dire, eh bien non, c'est terminé, je ne marche plus avec Jésus. Ça, c'est possible. On ne peut pas rester sauvé si on fait ça. Mais par contre, personne ne peut. Si tu as décidé de rester avec Jésus, même avec tous tes problèmes, personne ne peut t'arracher à la main de Jésus. Alors, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est ce que le diable fait. Mais Jésus est venu pour retrouver, récupérer, pour rendre la vie et pour reconstruire ce qui a été détruit. C'est beau, ça. Alors, on a choisi le meilleur camp. Moi, je suis content d'avoir changé de camp. Je suis content d'avoir changé, d'être parti de celui qui voulait dérober, égorger et détruire, qui sème la division, la zizanie, la misère, le divorce, le deuil, les larmes et tout ce qui peut s'en suivre, et de venir à celui qui a restauré ma vie. Et si tu ne le connais pas encore, change de camp ce matin et choisis le bon berger. Amen.